Chapitre 1. Le ciel de novembre est sombre comme de la fonte au-dessus de Vorberg. Il est presque 3 heures du matin et les rues sont désertes. Une voiture de police passe lentement devant la vitrine protégée de barreaux d'un salon de beauté. Les agents John Jacobson et Einar Bofors sont assis côte à côte, silencieux. Ça fait presque un an qu'ils ont arrêté de se parler, ne rompant le silence qu'en cas de nécessité. Le sachet contenant les restes de leur repas est posé sur le sol au pied d'Einar. Une odeur de friture et de graisse froide envahit l'habitacle. John tapote sur le volant en regardant à travers le pare-brise. Comme toujours, son esprit vagabonde vers son grand frère et son teint grisâtre. Les devantures poussiéreuses, recouvertes de publicité, reflètent la lumière provenant de l'entrée du métro. Des papiers gras, des feuilles mortes et du verre brisé s'amoncellent entre les colonnes en béton de l'arcade. Devant l'association caritative Stadtmissionen, le sol est jonché de canettes vides, de sacs plastiques et de cartons aplatis. Absorbés dans leurs pensées, les deux policiers roulent le long de la chaussée et tournent à droite, après l'église éthiopienne. De gros flocons de neige commencent à apparaître sous les réverbères. Le quartier semble soudain irréel, comme un décor de conte de fées. Une vision dérangeante qui rappelle à John son enfance. La lueur laiteuse de la devanture de la station Pullman éclaire sa main crispée sur le volant. Juste au moment où Einar sort sa boîte de snus, ils reçoivent une alerte du central. Un cambriolage est en cours au camping de Breding. Einar répond à l'appel tandis que John contourne le supermarché et les bacs de recyclage verts pour rejoindre la route. Le camping est fermé pour l'hiver et le propriétaire est en Floride, explique l'opérateur. Mais les caméras de surveillance reliées à son téléphone montrent de la lumière à l'intérieur d'une des caravanes. Sans sirène ni gyrophare, la voiture de police fonce sur la route déserte, passant devant une rangée de grands immeubles et l'ancienne centrale thermique. Les essuie-glaces chassent les flocons de neige du pare-brise. Ils ne disent rien, mais tous deux pensent qu'il s'agit de quelqu'un qui cherche à échapper au froid de la nuit. Un sans-abri, un sans-papier, une personne atteinte de troubles mentaux. C'est la routine. Ils passent devant l'hôtel Scandic et tournent sur Sjöholmsvägen. Il y a bientôt 5 ans, John a réussi à forcer la porte de la chambre de son frère aîné. Luc était étendu sur le sol, près de son lit, les lèvres bleuies. La lanière de caoutchouc jaune pendait mollement autour de son bras, et le coton taché de sang était resté collé à son t-shirt Nirvana. John n'oubliera jamais ses yeux grands ouverts et ses pupilles anormalement petites, comme si elles avaient été dessinées avec la pointe de la seringue. Depuis qu'il est affecté à ce poste, il a toujours avec lui 3 boîtes de naloxone, un antidote qui ne fait pas partie de l'équipement standard. Il n'en a jamais parlé, mais le spray nasal lui a permis de sauver 8 vies jusqu'à présent. Il passe devant le terrain de foot, traverse la zone industrielle et pénètre dans la réserve naturelle de Setraskogen. Lorsqu'il s'arrête devant les grilles métalliques du camping, il s'est écoulé 8 minutes depuis l'alerte. Les magasins, le bureau et le restaurant thaïlandais sont fermés pour la saison. Les flocons de neige viennent doucement se poser sur l'asphalte devant eux. John et Einar sortent de la voiture et, sans un mot, franchissent la grille. Ils consultent le plan du site, puis se dirigent vers l'emplacement G. Le vaste terrain de camping semble étrangement désert sans ses tentes et ses occupants. Ils traversent une grande étendue de gazon jaune quadrillée par des chemins et s'approchent du secteur des caravanes. À droite se profilent des collines couvertes d'arbres dénudés. La neige tombe lentement entre leurs branches noires et éparses. Ils passent devant une petite aire de jeu et une station de vidange avant de s'engager entre les caravanes surélevées. L'acoustique change subitement. Le bruit de leurs pas se répercute sur les parois et résonne de manière singulière. Les fenêtres sont sombres, Les fanions fixés sur les hautes antennes de télé pendent mollement et les petites terrasses sont vides. John repense à l'année qui a précédé la mort de son frère. Il avait commencé à le craindre. Luke se mettait parfois dans des colères noires et pouvait devenir violent, comme la fois où John lui avait demandé de lui rendre l'argent qu'il lui avait prêté. De loin, il distingue la lumière émanant d'une des caravanes. En approchant, il devine qu'elle provient d'une lampe derrière les rideaux. John s'arrête, respire profondément l'air glacé, dégaine son arme de service et monte les escaliers métalliques. Après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte, il ouvre. « Police, on entre !» lance-t-il d'une voix faible. Il pénètre dans la caravane et discerne des traces de pas qui partent dans plusieurs directions. Les taches sombres se détachent sur le lino imitation parquet. Il regarde à droite en direction du couloir et repère deux portes fermées et une petite salle de bain. Tout est silencieux. Son arme pointée vers le sol, il avance vers la partie éclairée du salon. Le plancher de la caravane grince à chacun de ses pas. Il distingue une table de cuisine et quatre chaises. La lumière indirecte de la lampe située plus loin éclaire faiblement la surface rayée des meubles. Il s'arrête soudain en entendant une voix de femme s'élever doucement dans le silence. « Réponds, mon étalon, réponds !» murmure-t-elle d'un ton enjoué. « Réponds, mon étalon !»«
Police, j'avance !»
crie John qui sent les poils de ses bras se dresser. « Mon étalon, réponds ! Réponds, mon étalon, réponds ! Réponds !» La femme se tait. John continue d'avancer, son arme pointée devant lui. Une odeur métallique rappelant celle d'une meule humide emplit l'air immobile. Il sent les parois de la caravane vibrer sous les pas lourds d'Einar. John s'arrête en tremblant, respire par le nez, tend l'oreille et fait encore un pas dans la cuisine. Aussitôt, il recule avec une grimace d'épouvante. Sur l'évier en acier inoxydable repose une jambe humaine. Elle porte un pansement au genou et une chaussette noire d'homme au pied. Les muscles et les tendons ont été sectionnés à coups de hache. La tête du fémur est sortie de sa cavité osseuse et sa blancheur étincelante contraste avec les tissus rouges sombres. Putain, c'est quoi ce bordel? Les murs, le plafond et le sol sont éclaboussés de sang. Sur la table basse, entre deux pots de fleurs en plastique, gît ce qui reste d'une tête. Malgré l'absence de la mâchoire et du menton, John peut voir que la victime est un homme aux cheveux noirs hérissés de mèches blondes. Le sang recouvre tout le plateau de la table et s'écoule, visqueux, pour former une grande flaque sur le sol. Un téléphone posé sur le canapé s'allume, le nom d'Anna apparaît à l'écran, et la sonnerie personnalisée reprend. « Réponds, mon étalon, réponds. Réponds, mon étalon. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la caravane, Einar ouvre la porte d'une des chambres à coucher et l'éclaire avec sa torche. Un torse, auquel il manque les jambes et les bras, repose sur le lit. Les mutilations sont irrégulières et sanguinolentes, dévoilant des cartilages blanchâtres et des moignons d'os éclatés. Il fixe le ventre velu de l'homme démembré, le pénis contracté, le torse musclé et tatoué, le cou et le bas de la tête. Le matelas est imbibé de sang et ce qui reste du corps brille d'une lueur sombre. Einar sent le pistolet vibrer dans sa main comme s'il était traversé par un courant électrique. Le choc visuel est si intense qu'il chancelle. Il cale la torche sous son bras et porte sa main à sa bouche. Lorsque l'odeur du ketchup sur ses doigts se mêle à celle du sang frais, son estomac se retourne. John entend les pas précipités de son collègue, regarde derrière lui dans le couloir et voit Einar sortir d'une chambre, lâcher sa lampe torche sur le sol, tapoter nerveusement sur son rackle, puis quitter précipitamment la caravane pour aller vomir. Alors que John s'apprête à revenir sur ses pas, il s'arrête brusquement pour tendre l'oreille. Il est saisi d'un frisson. Un rire étrange, indolent et mécanique, résonne à travers les cloisons. John a l'impression qu'il vient de l'extérieur. Le rire se change en gémissement. Et c'est de nouveau le silence. Le cœur battant, il s'approche de la dernière porte close. Il pense soudain de façon irrationnelle que son frère Luc se trouve derrière, ses lèvres bleues, ses pupilles en tête d'épingle et une hache ensanglantée posée sur son épaule. À l'extérieur de la caravane, Einar est en train de parler avec l'opérateur du central de manière agitée et incohérente. John appuie sur la poignée et pousse la porte en pointant son arme vers l'obscurité. Sur le mur, sous la fenêtre au store fermé, se trouve un radiateur électrique dont le câble a été tiré. Du sang éclabousse sa surface en métal blanc. Les gonds de la porte grincent doucement juste avant qu'elle ne s'arrête. John tend la main pour l'ouvrir complètement et entre. Sur le sol, à côté du lit superposé, un garçon est allongé sur le côté, un bras coupé placé sous sa tête. Son visage est pâle et flasque et ses yeux sont fermés. Il porte un jean, des baskets et un pull vert. John s'approche de lui pour prendre son pouls. Une hache est posée sur le matelas de la couchette inférieure. Einar crie quelque chose depuis l'extérieur. Le sol gémit sous le poids de John lorsqu'il tend la main. Soudain, les yeux toujours fermés, le garçon commence à rire. Ses dents brillent sur son visage ensanglanté. John recule et, en voulant désactiver le mécanisme de sécurité de son arme, glisse dans une mare de sang, se cogne le dos contre le mur et tire accidentellement au sol. Le garçon sursaute et se redresse. Il cligne des yeux et regarde John d'un air absent, puis repousse sa mèche d'une main rouge de sang et s'humidifie la bouche avec sa langue. « Qu'est-ce qui se passe ? » demande-t-il d'une voix effrayée.